Bien. Alors, le thème de cette table ronde, si vous avez envie de vous avancer, parce que on n'a pas de micro, donc si vous voulez mieux entendre, c'est une possibilité. Hein, que je vous propose, parce que je ne vais pas parler plus fort, vu que ça sera ma troisième conférence de la matinée, que j'en ai encore deux après.
Comme ça sera intimiste en plus.
Ouais.
Alors, posséder des pouvoirs, c'est la galère assurée. Enfin, je pense que si j'avais un pouvoir amplificateur de voix là maintenant, je ne suis pas sûre que je trouverais ça si galère à ça. Alors, commençons par présenter nos auteurs. Nous avons Thomas Andrew, qui est l'auteur de Cupidon Mortel, le début d'une série, qui en est à son troisième tome, quatrième.
Deuxième tome, et il y a une série dérivée de l'univers de Drake Carter. Voilà.
D'accord. Anthony Ryan, vous êtes un auteur canadien.
Anthony Ryan
Pardon, Jonathan Reynolds. Okay. Sorry. J'étais là, je dis n'importe quoi. Alors,
c'est les lunettes, ça, c'est les lunettes.
Jonathan Reynolds, vous êtes un auteur canadien.
J'ai
failli dire québécois, mais est-ce qu'on dit québécois ou est-ce qu'on dit
canadien? Oui, dans mon cas, c'est québécois, mais ça ne me dérange pas. Le contraire, mais. L'autre option ne dérange pas.
Bien. Et vous êtes l'auteur de nombreuses nouvelles, de nombreux romans. Celui dont on va peut-être un peu plus parler aujourd'hui, c'est La Légende de McNeil.
Oui, c'est un tout petit livre.
Et Anthony Ryan, donc pardon, nous nous sommes déjà vus longuement ce matin. Vous êtes l'auteur de la trilogie Blood Song, dont le héros lui aussi peut, si on considère ça sous certains angles, considérer que ses pouvoirs, c'est la galère.
Something about having powers in a fantasy novel, I think you always have to have a price or a cost.
Donc effectivement, je pense que dans un roman de fantasy, quand on a des pouvoirs, il y a toujours un prix à payer. Donc ça fait un peu partie du deal.
Alors ma première question à vous trois, et qui sera peut-être pas forcément facile à traduire en anglais, je laisse à Sylvie le soin. On dit posséder des pouvoirs.
So in French, we say possessed. Possessed par l'aise.
Mais est-ce que c'est posséder des pouvoirs ou est-ce que c'est être possédé par ses pouvoirs?
Is it to possess par l'aise or to be possessed
by l'aise? I think as a storyteller, it's always important to explore all aspects of what powers your character has.
Je pense qu'en tant qu'auteur, c'est intéressant d'explorer toutes les facettes et toutes les possibilités des pouvoirs qu'un personnage a.
Are their actions driven by pure motives, or are they acting a certain way purely because they can, because they have a magical gift that enables them to?
Alors, dans certains cas, ils vont pouvoir agir comme ils le peuvent parce qu'ils sont dotés de certaines capacités et c'est ça qui fait qu'ils vont, ça va déterminer une partie de leurs actions.
I think if you have a gift that makes you more powerful than everyone else around you, then inevitably your story has to reflect on the nature of power and how it's used.
On a un pouvoir, effectivement, le personnage qui a un pouvoir, forcément, il va avoir plus de puissance, plus de possibilités. Enfin, quand il a des capacités, il a plus de pouvoir que d'autres personnages. Et donc, c'est intéressant d'explorer les effets de ses pouvoirs sur les autres et sur lui-même.
Pour vous, Jonathan, est-ce que dans vos différentes approches des pouvoirs, qui sont souvent des approches lié à l'épouvante et à la peur. Et est-ce que le fait d'avoir des pouvoirs, c'est quelque chose qui possède ou est-ce qu'on possède des pouvoirs?
C'est une question super intéressante parce qu'en fait, on dirait que je suis comme je m'étais jamais questionné sur ça pour être franc, parce que c'est ça. Moi, ça va souvent être l'aspect. J'aime pas le mot négatif, mais l'aspect malédiction, en fait, c'est ce que je veux dire. L'aspect malédiction jeté sur des personnages. Mais je fais, pour être franc, je fais rarement des personnages qui ont des pouvoirs pleinement assumés. Ça va souvent être des personnages qui, soit par des visions, mais qui ne contrôlent pas. Okay? Je n'ai jamais mis en scène comme des magiciens ou des... Bon, je ne fais pas dans la fantasy, mais dans l'épouvante, ça aurait pu. Regardez Stephen King, si on prend Carrie, ben, elle se rencontre. De plus en plus, elle s'informe sur ce qu'elle a comme pouvoir, sur... on peut appeler ça une malédiction, oui, parce qu'elle ne contrôle pas pleinement, mais tout de même, elle arrive volontairement à faire bouger des objets et tout. Donc, dans le cas de Stephen King, les pouvoirs et l'épouvante, comment je peux dire, Carrie réussit à maîtriser, en quelque part, ces malédictions. Mais moi, lorsque j'en mets en scène, ça vire toujours contre le personnage. Faudrait que j'essaie à un moment donné de faire le contraire.
Ouais,
je me questionne devant vous, je dis juste mes pensées à voix haute en fait.
donc définitivement pour vos personnages, avoir des posséder des pouvoirs, c'est bien une galère, c'est bien quelque chose.
Ah oui, ça va avec le sujet de la table ronde.
Il n'y a pas moyen que ça se passe mieux ou autrement.
Mm-hmm. En fait, c'est ça, je me questionne, mais oui, il faudrait.
Je vous laisse vous questionner. J'aime bien donner des idées aux auteurs pendant les tables rondes. Ça nous permet de savoir de quoi ils vont parler au prochain livre et de rebondir. Pour vous, Thomas, on peut dire que votre personnage principal, il est en galère à partir du début. Est-ce que c'est pas lui-même un galérien avant même qu'il...
Mais si, complètement. Il a la poisse, il a une véritable galère, c'est un chat noir. Voilà, le jour de la Saint-Valentin, il est défenestré. C'est sympa comme cadeau quand même. Voilà, alors il devient un fantôme et pendant 6 mois, il erre dans New York. Personne ne lui parle, personne ne le voit, enfin voilà, franchement il galère bien, il rame. Voilà, donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand il découvre que voilà, bah, c'est un fantôme, bon il le sait, hein, il n'est pas complètement débile, hein, il y a des gens qui le traversent, voilà, avec une espèce de... J'avais imaginé le bruit de la personne qui passait à travers le fantôme. Bon, j'ai utilisé une ventouse ce jour-là et je me suis dit, tiens, ça va être génial, et j'ai entendu le... Et voilà. Ce qui fait que je me suis dit, ça va être le bon bruit de la ventouse pour traverser à travers. Donc c'était bien. Et ouais, non, c'est vraiment une grosse galère d'être un fantôme actuellement. Et quand il découvre qu'il doit faire une bonne action pour aller dans l'au-delà, il va être entouré après, il va être un aimant à emmerde avec toutes les personnes qui sont des losers. Voilà, à New York, il y a une concentration de losers et c'est lui qui va les récupérer. Donc oui, pour lui, c'est vraiment une grosse galère et ça va être comme ça sur tous les autres tomes et ça va être génial.
Est-ce que c'est pas parce que... Parce qu'autant on peut, chez Jonathan, se dire que la malédiction du pouvoir, c'est pas mérité, ça tombe sur vous, c'est pas de chance. Autant on peut dire chez Anthony que la force de la destinée va avec les pouvoirs et c'est inévitable. Est-ce que chez votre héros, il n'y a pas quand même un petit côté, il était déjà... très loser avant même d'avoir ses pouvoirs.
Non, il n'est pas loser, je pense que c'est un... Alors à moins que loser, pour toi la définition c'est d'être un homme de ton époque, moi je ne pense pas, c'est que voilà.
Je ne suis pas un homme, je ne peux pas savoir.
Voilà. Alors c'est vrai qu'on a énorme... On galère nous en tant qu'homme, hein, ça c'est sûr. Mais non, il a une vie plutôt...
Plus que les 50% de l'humanité qui sont victimes de sexisme, non.
Non, je déconne, non. Non, bien sûr que... Non, ce que je veux dire c'est qu'il a une vie tout à fait, on va dire, plan-plan. Pour un homme de 30 ans actuellement, c'est-à-dire qu'il a une petite copine qu'il aime passionnément, il a un boulot qu'il adore, il est médecin légiste à New York, alors effectivement il y a plus fun, mais voilà, c'était la seule sortie qu'il pouvait avoir après une embuscade où il s'est pris une balle dans le foie, donc effectivement déjà voilà, avoir cette petite digression du point de vue du métier, effectivement, ça peut être une galère, mais il s'épanouit en tant que médecin légiste. Et après, ben voilà, il a des potes qu'il adore, avec qui il sort, il a un copain qui est dragueur, ça c'est mon meilleur ami, spécial dédicace pour lui. Voilà, c'est, on a toujours un meilleur ami dragueur invétéré qui a un aimant à fille et lui, et être le faire-valoir en disant, toi, de toute façon, toi t'es moche, donc tu vas jamais attirer les gonzesses, donc ça sert à rien, je les récupère. Donc, ouais, mais ça c'est dans la vie de tous les jours, on a toujours un meilleur ami qui fait les copines, on a toujours des galères de boulot en disant, tiens, je vais faire ça, mais en fin de compte, l'opportunité fait qu'on va avoir autre chose. Et la petite copine, on a toujours eu des petites copines ou des petits copains qui où ça se passe bien, où ça se passe mal. Non, c'est la vie, d'un trentenaire, que ce soit à New York, à Paris, ou à Épinal. Fin de compte.
Anthony, est-ce que votre personnage principal aurait pu être sans pouvoir?
So, Anthony, could your main character be without powers?
Yes. And spoiler alert, book 3, he doesn't have any powers in that.
Oui, tout à fait, puisque, voilà, spoiler, donc si vous ne voulez pas savoir, bouchez-vous les oreilles. En fait, dans le tome 3, il va perdre ses pouvoirs. Donc, il y aura un tome 3 où il sera sans pouvoir.
Et est-ce que ça changerait son rapport à son destin? Est-ce qu'il serait un petit peu moins dans les embarras, un petit peu moins dans les intrigues, un petit peu moins au centre de l'action?
Does it change his destiny? Is he a bit less in the center of action? And has he got less trouble than when he had his powers?
He's in just the same amount of trouble. It's a lot more difficult to deal with.
Non, il se retrouve face exactement à la même... au même nombre d'ennuis, à la même somme d'ennuis, sauf que sans les pouvoirs, ça va être un petit peu plus difficile à gérer.
The reason I did that was by the end of the second book, Tower Lord, Valen had become too powerful.
Et en fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de le priver de ses pouvoirs, c'est que finalement, par le déroulement de l'histoire, à la fin du tome 2, j'ai trouvé qu'il devenait trop puissant, et du coup, c'était intéressant de lui retirer ses pouvoirs pour voir ce qui allait se passer après.
He finally achieves a mastery over the gift that he has, but in the process of, you know, scoring a great victory, he also loses his gift.
Et en fait, à la fin du tome 2, il finit par complètement maîtriser ses pouvoirs, et il va les utiliser d'ailleurs pour la fin de l'histoire, pour arriver à sortir victorieux, mais dans la bataille, il va perdre les pouvoirs.
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses dans la vie, Jonathan, qui sont aussi galères qu'avoir des pouvoirs, finalement? Est-ce que pour vous, la maman dans la légende de McNeil n'est pas... Vous allez nous pitcher un tout petit peu, parce que les gens ne connaissent pas forcément. Est-ce qu'elle n'est pas, dans la situation où juste avoir un enfant, c'est la galère?
En fait, je vais faire une petite parenthèse. Juste avant de vous résumer brièvement le livre de Mathieu. Moi, je trouve que dans n'importe quel, je vais appeler ça des genres littéraires, mais disons, que ce soit de la fantasy, du fantastique, de la science-fiction, peu importe, mais je pense qu'elle est d'accord avec moi. En tout cas, c'est pas juste une opinion. Je trouve que les bonnes histoires, c'est avant tout des histoires de personnages. Ça peut paraître évident. Sauf qu'il y en a qui vont dire, ben oui, quelle aventure, c'était très bien, je remplacerai les personnages par d'autres. Non, c'est avant tout, qu'est-ce que cette aventure-là, qu'est-ce que ces horreurs-là, qu'est-ce que cette magie-là ou cette technologie-là apporte dans la vie de ces personnages-là, qu'est-ce que ça vient bousculer. Donc, même chose pour des pouvoirs. Alors, bon, j'en viens à très rapidement, je vous résume du moins le début de la légende de McNeil, qui est une novella d'horreur, d'épouvante. C'est une femme, une jeune femme, qui a eu très tôt une enfant. Donc, sa fille va bientôt avoir 10 ans. Et de plus en plus, au fil des jours, qu'on se rapproche de ce 10e anniversaire-là, la mère, donc Marie, mon personnage principal, remarque que sa fille change, mais littéralement, comme si c'était de moins en moins la même personne. Et même que cette petite fille-là, qui s'appelle Elisabeth, se met à raconter « Ah, j'ai rêvé qu'on était allé dans le canton de Brompton. » Bon, petite parenthèse ici. Bromptonville et son canton, c'est en Estrie, une région au Québec, à peu près à une heure de Montréal et à une demi-heure de la frontière américaine, donc états-unienne. Bon, j'ai rêvé qu'on était allé dans le canton de Brompton et que j'avais vu la bête qui rôde, la légende. Mais c'est impossible que Elisabeth, cette petite fille-là, qui n'a même pas 10 ans, soit allée là et ait entendu parler de cette légende-là. C'est impossible. Marie, elle, est déjà allée dans son adolescence avec des amis et a entendu parler de cette légende-là et aurait entrevu des choses surnaturelles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Marie qui commence à, comme on dit, péter les plombs, tu sais, devenir folle? Sa fille qu'il y aurait en quelque sorte une malédiction, même si elle n'est jamais allée là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est surnaturel ou... Donc, là, j'irai pas plus loin là-dessus pour pas vous spoiler, mais c'est là-dessus que je voulais jouer au niveau des pouvoirs, au niveau de des malédictions, constamment dans le doute, ce qui est très propre au fantastique classique, Maupassant, Lovecraft et compagnie. Là, les noms ne viennent pas en tête aujourd'hui, mais toujours dans ce doute-là. Dans le quotidien, et on débalance, une espèce d'inquiétante étrangeté. Il n'y aura jamais dans mes livres le démon qui vient des enfers et qui... C'est pas hollywoodien, ok? Je l'avoue. Ça ne me tentait pas de faire ça parce que moi, c'est pas ce qui m'intéresse dans ces univers-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les légères subtilités. Oui, il peut y avoir des créatures, oui, tout ça. Mais je suis plus de l'école un peu de Lovecraft que si on les voit, on devient fou. Tu ne feras pas ami-ami avec. Non. Puis des trucs.
Tu ne sers pas la paluche à que tu lui, quoi.
Et voilà. Donc ça résonne très bien, je crois. Ouais.
Oh! Ah. Ouais. Ne vous emballez pas, ça n'a duré que 2 minutes. À la conférence. Il y a 2 seconds. Bien. Est-ce qu'on peut pas dire aussi que finalement les pouvoirs changent certainement la personne qui les possède, mais que ça change surtout l'entourage. Et du coup, c'est peut-être l'entourage qui crée la galère et pas le personnage en lui-même qui ne vit pas bien ses pouvoirs ou qui les possède mal ou qui les maîtrise mal.
Ouais, complètement. Pour Dre Carter ou pour la saga principale, c'est exactement ça. C'est que bon, quand on est fantôme, on est fantôme, on devient sans domicile aéré, enfin, c'est pas grave, hein, on erre comme ça dans New York. Et c'est vrai que, alors, petit spoiler, mon bouquin, c'est vrai que son meilleur ami, voilà, c'est le sorcier qui est un vrai galérien, il sait pas du tout lancer de sort, enfin, c'est un vrai loser là-dessus. Et c'est vrai que toutes les ennuis qu'il va avoir au fur et à mesure, ça vient à cause de Tony, son meilleur ami. Et c'est vrai que oui, quand on a un entourage qui apporte ses ennuis, apporte ses galères continuellement, c'est vrai que le personnage, comme disait tout à l'heure mon collègue, effectivement, c'est ça, c'est il commence à douter de ses pouvoirs, il commence à douter de tout ça. Il se dit, de toute façon, avec tout ce qui m'arrive sur le point de la tronche, je ne pourrai jamais regagner de là, je ne pourrai jamais aller dans le paradis. Donc voilà, il se dit, même au bout d'un moment dans le bouquin, oui, effectivement, puisque tu es allé faire un tour sur Wikipédia, oui, effectivement, c'est une source sûre, donc au moins, je vais rester pendant 1000 ans sur la Terre, non, c'est bien, tu as fait une grande recherche, c'est cool, c'est un warrior, c'est bien. C'est... Voilà, donc effectivement, il commence vraiment à douter de savoir s'il va aller dans au-delà pour essayer d'avoir une vie plus saine.
Ok, Anthony, pour vous, l'entourage de votre héros, est-ce que c'est cet entourage qui l'entraîne vers les difficultés, plus que son propre pouvoir?
Valen has a lot of enemies. They cause him a lot of trouble. His power enables him to fight his enemies, but I was always keen to present magic in this world as having a cost and a price. It has a physical price. If you overuse it, you bleed. And if you use it too much, you bleed to death. So, I have the power to turn off the.
Il dit j'ai le pouvoir de. C'est comme avoir le pouvoir de couper l'électricité. So, ok. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Vaylin a beaucoup d'ennemis. Et donc, bien évidemment, ses ennemis vont lui causer pas mal de soucis. Ils vont le forcer à utiliser ses pouvoirs, mais le fait d'avoir ses pouvoirs, ça a un prix, puisque dans le livre notamment, quand on utilise trop ses pouvoirs, on peut éventuellement mourir d'une hémorragie, c'est-à-dire qu'on se met à saigner et on peut saigner jusqu'à la mort.
I think it's important from a storyteller's point of view, if you're going to have magic in your world, it has to have limits. It can't be all powerful. Superman without kryptonite is an incredibly boring character.
Je pense que en tant que narrateur, qu'écrivain, c'est intéressant quand justement on donne des pouvoirs à un personnage. Il faut aussi fixer des limites, et c'est ce qui va rendre le personnage intéressant. Par exemple, Superman sans la kryptonite, ça serait un super-héros incroyablement ennuyeux.
Non. vous venez de parler du prix à payer, et je pense que quand on parle de galère, c'est vraiment la partie importante du fait d'avoir des pouvoirs. Mais est-ce que vous êtes du genre à penser, comme le créateur de Spider-Man, que des grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités?
So you say that when you have powers, there's a price to pay, but would you say like the man who created Spider-Man, that with great power comes great responsibility?
It depends on the character. With great power can come great wealth.
Ça dépend du personnage. Parfois, avec de grands pouvoirs, il peut simplement y avoir une grande richesse.
Vous encouragez le vol pour les super-héros, c'est ça?
Do you mean that superheroes have better become thieves?
The superhero narrative, they get their powers, they immediately go and start fighting crime. Why?
Alors en fait, c'est vrai qu'on peut se poser la question, les super-héros, à partir du moment où ils acquièrent leur pouvoir, ils commencent à combattre le crime. Mais pourquoi donc?
You could make millions of dollars just going on reality television if you had superpowers.
Et avec finalement, avec tous ces millions que l'on voit à la télé-réalité, tout cet argent disponible, mais pourquoi ils perdent leur temps à combattre le crime?
Et est-ce que c'est pas justement quelque chose qui est lié, parce que votre personnage, il pourrait aussi ne pas être dans la compassion, ne pas développer sa partie humaine, il pourrait se contenter d'être un tueur et un guerrier invincible.
He could just manage to be a killer and try to make money with killing and not feel mercy and not be human.
But that's not who he is. And in the course of the story, he meets people who do have a similar power, one of whom is nice and one of whom is completely insane and evil.
En fait, ben non, ça serait pas possible qu'il agisse comme ça, parce que c'est pas ce qu'il est. Lui, il a ce caractère, il a cette humanité. Et d'ailleurs, au fil de l'histoire, au fil des trois tomes, il va rencontrer des gens qui possèdent le même pouvoir que lui, ce fameux Bloodsong. Et notamment, il en rencontre deux. Il y en a un qui est vraiment qui fait le bien et qui est gentil, et l'autre qui est complètement fou, que ses pouvoirs ont rendu complètement fou.
Enfin, bon, on peut conclure maintenant qu'on espère tous qu'Anthony Ryan ne va pas acquérir de super pouvoirs.
So we can conclude that we have
to ruiner l'économie mondiale.
Because you would ruin the world's economy.
It would be a much richer man sitting here.
Sorry?
It would be a much richer man sitting here. I would be much richer.
Excusez-moi, parce qu'en fait, Anthony est écossais, et par moments, il y a des petites difficultés sur l'accent, donc il disait que finalement, il serait un homme infiniment plus riche. Voilà.
Moralement.
Morally.
Bill Gates is a very nice man.
Bill Gates est un bon gars, d'une certaine manière.
Alors, on a parlé du prix à payer. Jonathan, pour vous, quoi qu'il arrive, puisqu'il est question de malédiction, le prix est automatique. Il y a automatiquement un prix, même si on n'a rien fait pour avoir des pouvoirs, même si on n'a rien fait pour être la victime de la malédiction. On paye. C'est le principe de l'épouvante, hein, en général.
Oui, c'est vrai. J'essaie de jamais juste répondre un oui à une question, mais là, j'ai pas joué un oui. À fond, il y a probablement façon de faire autrement. Ça sera un défi là, de questionner là-dessus pour éventuellement faire une malédiction. Mais tu sais, sans que ça tourne à la fantasy ou sans que ça tourne à je pense que c'est la série Supernaturelle, là, que ça s'appelle, Supernatural. Que tu sais, au début, c'était épouvante parce qu'il y a des créatures et tout ça, mais on s'entend que c'est de l'espèce de. Pas urban fantasy, mais. Est-ce que vous êtes d'accord un peu? Parce que le but, c'est plus d'être épeurant, parce qu'on sait qu'ils mourront pas, ou que s'ils meurent, ils peuvent revenir et être ressuscités. Donc, c'est pas tant de l'épouvante. Mais sans que je me mette à écrire comme ça, Il y aurait peut-être moyen que ces malédictions-là, pas qu'elles tournent positives, mais que le personnage s'en serve de façon positive, mais sans justement que ça devienne... Tu sais, vous comprenez ça, que ça devienne une urban fantasy trop
positif.
Trop positif. Pourtant, dans la vie, je suis quelqu'un de positif, mais bon, j'aime les histoires. Le gars, il y a de l'air.
Mais justement, est-ce que vous n'avez pas une façon... est-ce que c'est votre... Puisque vous venez de dire que vous êtes optimiste, est-ce que c'est votre vision du monde de voir qu'il y a des gens sur qui l'injustice peut tomber et s'abattre de...
Oui.
Littéralement.
Parce que, je peux donner un exemple, mais ça va être hyper rapide, ça ne sera pas un exemple littéraire. C'est... Écoutez, tu sais, on se dit dans la vie des fois, ah, il n'y a rien qui arrive pour rien, tu sais, sans croire au destin et tout ça. OK, mais j'ai une amie qui... une histoire rapide, mais tragique. Qu'elle a vu la tête de son fils de 3 ans exploser à cause d'une arme à feu. Est-ce que ça, c'est qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie? Pourquoi c'est arrivé? Je ne sais pas. Effectivement, je crois qu'il y a des personnes, c'est juste, ça tombe au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et après, il faut, je vais dire en anglais, il faut dealer,
faut faire avec.
Oui, il faut faire avec, il faut se reconstruire à partir de ça. Et sentir très bien selon les circonstances, mais bon, c'est elle qui est arrivée, et pas à moi ou pas à... Donc, c'est un peu ça, je crois.
Oui. Alors, on vient de démontrer que vous n'êtes pas si optimiste que ça. Et est-ce que vous auriez envie de confronter vos personnages, je pense aux personnages de Thomas, à des choses beaucoup plus positive? Est-ce que c'est important que le héros passe par la galère?
Dans le tome 2, pour Drake, oui, il évolue assez positivement. Il y aura toujours une enquête policière. Ça se passe dans une école à New York. Mais voilà, il va continuer à grandir. Parce que j'estime qu'à 30 ans, on n'est pas encore sage. Et qu'il faut grandir, il faut essayer d'aller de l'avant. Et donc, effectivement, il va continuer à se construire. Et il aura de moins en moins de galères. Et il va être de plus en plus positif. Parce que moi, comme Jonathan, effectivement, je suis assez positif dans la vie. Et j'estime que quand on... la galère dans la vie de tous les jours permet de se renforcer, permet de grandir. Voilà, moi j'ai continué à grandir, notamment en février, je suis vraiment mon papa. Ce qui fait que faut que j'apprenne à devenir, à être un homme sans lui. Donc, ce qui fait que on continue à avancer. Et puis pour Drake, c'est exactement la même chose. Il faut continuer à avancer en étant un espèce de zombie fantomatique. Donc, mi-homme, mi-fantôme, hein, dans le tome 2, c'est assez difficile. Et dans la série dérivée, Glenn, c'est exactement la même chose. Il devient vampire. Il va commencer à apprendre à devenir vampire. Voilà, utilisé certaines petites choses, notamment dans Supernatural, que j'adore. Et effectivement, c'est ça. C'est utiliser du faux sang parce que tuer les gens, c'est mal. Voilà. Donc effectivement, avoir du sang synthétique à goût framboise, myrtille, etc. Ce qui fait que la première gorgée de sang synthétique, c'est un petit peu bizarre. Donc effectivement, apprendre pour ces deux personnages, essayer de construire, d'apprendre à utiliser leur pouvoir et essayer de devenir des gens un petit peu plus meilleurs et être un peu plus positifs dans la vie. Our destinies try
to master the power and become better. Est-ce que votre personnage lui aussi maîtrise ses pouvoirs et devient meilleur?
So does Merlin masters his powers and becomes better.
He masters it briefly and then loses it.
En fait, il les maîtrise brièvement et en fait, ensuite il les perd.
Et est-ce que la perte des pouvoirs entraîne qu'il soit quelqu'un de moins bien?
And without his power, is he a lesser person or someone who's...
He's lessened in that he's not as powerful, but he is someone who spent his entire life learning how to and killing people with sharp weapons.
En fait, en perdant ses pouvoirs, effectivement, ça va le diminuer un petit peu, mais ça va pas le gêner tant que ça, puisque pendant toute sa vie, il a appris à tuer des gens avec toutes sortes d'armes, et donc il a quand même des capacités physiques sans avoir les pouvoirs.
So he's not helpless.
Et donc, il n'est pas sans ressources.
Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer que, qu'on soit tous à égalité avec, avec des super pouvoirs et qu'on ait tous la possibilité de s'améliorer dans nos pouvoirs? Est-ce que du coup on pourrait faire un meilleur monde, ou est-ce que de toute façon notre nature humaine nous pousse vers les choses galères et nous pousse vers... ou est-ce que, si ce n'est pas la nature humaine, est-ce que c'est le destin ou le fait que les mauvaises choses tombent au hasard, au petit bonheur, la chance sur les uns et les autres? Qu'est-ce que les super-pouvoirs pourraient amener globalement? Est-ce que ça amènerait globalement?
If we had superpowers and we were all equal with our powers, if you think it would improve the world, or we could improve things, or maybe our human nature would prevent us from having a good world, what do you think about
it? It would be exactly the same, but a lot more visually interesting.
Mais en fin de compte, le monde serait exactement le même, mais sans doute sur un plan visuel beaucoup plus intéressant.
Préparez-vous au rouge sang.
Ouais, c'est ça. Des explosions.
Yeah, explosions.
C'est vrai, parce que ça dépend qui a ces pouvoirs-là. Si c'est quelqu'un qui est au pouvoir, ou même à ça, ça dépend à quelqu'un qui serait du jour au lendemain aussi puissant. Bon, on parlait de Superman ou peu importe, là, ou même Spider-Man. Mais tu sais, il grimperait les échelons assez vite s'il n'y a pas une morale, s'il n'est pas rempli de compassion et de désir de sauver le monde. S'il veut le contrôler, il ferait comme ça, même pas besoin de bombe nucléaire, même pas besoin de... Ça dépend juste, c'est ça, parce que je pense à la nature humaine, comme tu mentionnais, et je me dis, ça dépend juste, c'est ça, est-ce que c'est quelqu'un qui le ferait pour le bien? Ben, tu sais, des fois, il y a des zones grises dans la vie, mais disons, ça serait quoi ses motivations, en fait? Je pense que c'est plus ça. Des fois, les choses ne sont pas juste bien ou mal, c'est juste, ça dépend des motivations. Peut-être que, disons, prenons Hitler, il avait pas besoin de pouvoir supernaturel, puis tout ça, juste pour contrôler une nation complète. Et pourtant, imaginez s'il y en avait eu, il aurait dominé la Terre entière, tu sais, ça aurait juste donné plus de...
être dans votre imagination. Hitler avec des super pouvoirs.
Ouais, c'est ça.
Il avait des super pouvoirs. Il n'aurait pas de contrôle.
Non, effectivement, je pense que ça serait exactement pareil. Says, peut-être puissance 10, puissance 100. C'est... Il y a un exemple, enfin c'est un comique, mais effectivement, quand on voit Captain America au cinéma, Civil War, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir deux clans de super-héros qui vont se foutre sur la tronche, tout simplement parce qu'il y en a d'autres qui veulent être contrôlés, d'autres qui veulent justement avoir leur liberté de champ d'action. Donc effectivement, et on a une... Voilà, ils se foutent sur la tronche parce que tout simplement, ils vont choisir leur camp. Et admettons qu'il y en ait un qui va prendre le plus de pouvoir sur l'autre, ça va être juste horrible, ça va être 10 fois ce qu'on a en ce moment, ou mille fois pire. Donc après, il y a d'autres exemples dans la culture geek. Quand on regarde Doctor Who, la saison 3, où c'est le maître, qui, voilà, un seigneur du temps qui prend le pouvoir, qui devient premier ministre en Angleterre, voilà, parce que tout simplement avec de la conviction et avec des pouvoirs des maîtres du temps, c'est-à-dire avec un papier psychique, etc., un aura ultra-dimensionné, voilà, il devient premier ministre, il contrôle complètement. Donc oui, avec des pouvoirs, ça peut être la même chose qu'en ce moment, mais avec des échelles.
Donc la vraie galère, c'est pas les pouvoirs, c'est plutôt l'humain.
So maybe what would cause the mess is not the powers, it's the human being.
As power is relative, if we're all equally powerful, then the world will change. But it's the disparity in power that's the problem.
En fait, c'est très relatif par rapport au pouvoir, parce que si tout le monde a des super pouvoirs, en fait, ça donne une sorte d'équilibre. On retrouve finalement une situation dans le monde qui va être à peu près équivalente. Alors évidemment, plus colorée, mais on va retomber sur la même chose. Ce qui peut causer de grosses différences, c'est quand il y a une inégalité de pouvoir, certains ayant des pouvoirs, d'autres n'en ayant pas, et là, du coup, ça va créer quelque chose de mauvais.
Du coup, je vais revenir à quelque chose de très basique. L'absence d'égalité financière dans notre monde est ce qui crée le chaos et les difficultés pour tous.
Financial equality in our world is what creates chaos.
Puisque l'argent c'est le pouvoir.
Because money is power.
In our world, money is power.
Dans notre monde, effectivement, l'argent c'est le pouvoir.
Donald Trump is a superhero.
Donald Trump est un super héros. Yes.
Okay, I don't want to live in your world.
Okay, I don't want to live in your world.
je veux pas vivre dans les mondes de ces gens.
I don't practice those people's worlds.
Bien, est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce que vos héros pourraient renoncer? Alors, Anthony nous a déjà dit qu'il essayait de pas nous spoiler le 3, mais que son personnage perdait ses pouvoirs. Mais est-ce que vos personnages pourraient y renoncer délibérément, de par choix, en disant non, merci, mais ça va bien, c'est déjà assez difficile sans, je vais me passer de vos pouvoirs.
Pour ma série dérivée, Glenn Lansbury, oui. Je pense que ce personnage-là, qui est étudiant, qui se transforme en vampire, je pense que, comme c'est un fardeau pour lui, il pourrait facilement renoncer à son côté vampirique, à redevenir comme avant. Et c'est même ce qui risque de se passer sans trop raconter l'histoire, mais voilà, pour lui il en souffre, et donc même si voilà, il va rencontrer l'amour de sa vie, il pourrait quand même facilement y renoncer. Quant à Drake, arrêter d'être fantôme, ça va être un peu compliqué, il faut juste regagner l'au-delà, donc lui, à mon avis, c'est ce qu'il attend éperdument, aller dans l'au-delà, voilà. Avoir une vie paisible, se faire réincarner un peu plus tard, avoir une vie peut-être un petit peu moins galérienne et un peu plus sympathique, sûrement.
Anthony, est-ce que votre héros pourrait renoncer à ses pouvoirs délibérés? Est-ce que ça pourrait être un choix?
Book 2, your hero loses his powers, but if he hadn't lost them, could he have renounced, to his powers?
In this world, you can't give them up. They are taken from you. But you can't give them up. So prior to that, you had no choice.
En fait, dans ce monde-là, non, il ne pourrait pas abandonner ses pouvoirs, et donc la seule façon, c'était de les lui retirer.
Moi, je dirais que, en tout cas, la façon que j'aborde les pouvoirs, encore une fois, il faut que je mentionne Lovecraft, parce que, tu sais, le mal, ça peut dormir, ça peut tomber en dormance, mais c'est toujours là à un moment donné. C'est pas pour être négatif, mais c'est juste pour pas être naïf, qu'il va toujours y avoir quelque chose, autant point de vue surnaturel, autant point de vue des malédictions ou des pouvoirs qu'on ne veut pas. Tu peux essayer de les endormir, mais ça serait nier quelque chose qui t'habite, qui te hante peut-être, ou qui t'habite malgré toi, que ce soit depuis ta naissance ou que tu as été maudit, que ça te soit imposé plus tard dans ta vie. Ça fait juste dormir, mais c'est là l'épouvante. Hein? Tu sais, si ça finit toujours bien, ben le lecteur est rassuré, ou le spectateur est rassuré, puis et voilà, on passe à un autre livre. Ça ne veut pas dire que mes personnages meurent, ça ne veut pas dire que... Mais tu sais, la mort, des fois, ça peut être une... j'aime la vie, là. Mais tu sais, la mort, pour quelqu'un qui souffre, ça peut être une libération. Donc, c'est pire si ça continue, et que c'est juste comme, tranquillement, en apparence, tout va bien, mais que ça va revenir. Un peu comme, si on revient sur Stephen King, dans le roman It, ça... Ben, ça va revenir, je crois que le cycle, là, ça fait longtemps que je l'ai lu, là, mais... il me semble que c'est au 30 ans, ou en tout cas le nombre exact d'années, je ne me souviens plus, 33? Ah, comme l'âge de Jésus, comme par hasard. mais c'est ça, ça va revenir de toute façon. Yeah, on l'a battu, tout va bien, ça est mort. Ça va juste revenir.
D'ailleurs, vous pouvez nous parler de ce que vous avez commis comme abomination, qui s'appelle les clowns vengeurs. Comme si les clowns en eux-mêmes, c'était déjà pas assez effrayant.
C'est ça. Faut rajouter une couche.
Bah oui, c'est ça. Je vais enlever mon masque d'humain, c'est le temps. Dans le fond, les clowns vengeurs, c'est tout ce que je lui mentionnais tout à l'heure, avant la table ronde, que, petit contexte très rapide, Les clowns vengeurs au Québec, c'est une série de science-fiction, mais très noire, donc horrifique. Pour moi, c'est de l'horreur, mais bon, l'éditeur le présente comme de la science-fiction. On est plusieurs auteurs, chaque auteur a comme son livre, et ça ajoute une petite pierre, une petite brique à la maison. Bon, vous voyez le principe. Et moi, mon... c'est quoi les clowns vengeurs? Désolé. C'est une secte de tueurs à gages. que les plus puissants ou ceux qui ont de l'argent dans cet univers-là engagent pour faire leur sale boulot à leur place. Tel politicien veut faire éliminer tel autre. Et, bon. Et cette secte-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des robots, là. Ça reste quand même des êtres. Bon, c'est pas des humains, mais ça reste quand même des êtres qui ont une conscience et tout. Donc, c'est intéressant, c'est d'explorer la psychologie de ça. Moi, dans mon livre bon, qui s'appelle Les couloirs de l'éternité, c'est un homme qui ne veut plus tuer. Il est plus capable de se sentir, il est plus capable d'être un tueur, moralement parlant. Oui, oui, il peut, il a les réflexes, mais il y a trop de sang sur les mains et sur la conscience encore plus, et ça noie dedans, carrément. Et il décide au début du livre, non, je fuis cette secte-là, comment faire? Donc, c'était cet homme-là ne renoncer, effectivement. C'était, je suis content de cette table ronde. Oh, et voilà la lumière. Mais oui, donc, de renoncer.
La lumière s'est faite dans son esprit. Ben, oui. Ben, oui.
C'est le cas de le dire. Donc, oui, c'est vrai. Renoncer volontairement, oui.
Oui,
et là, je vais vous spoiler ça, mais de toute façon, je ne crois pas qu'il soit disponible. Je crois pas qu'il soit disponible. Voyons.
Celui-là, c'est bon.
Je crois pas qu'il soit disponible de toute façon ici en France. Ce livre-là, Les couleurs de l'éternité, mais je vais vous spoiler ça. Ce livre-là finit bien, collectivement bien. Il se pardonnera jamais ce qu'il a fait, mais au moins, il réussit à se sortir de là. Bon, le reste, je ne ferai jamais un tome 2. Parce que je fais pas de suite, mais disons, le tome 2 serait comment il peut arriver à avoir une rédemption de tout ça et à s'abandonner à lui-même, mais au moins, il finit bien dans le sens de, il réussit à fuir cette secte-là, à fuir cette cité oppressante et tout.
Donc,
bon, là, mais comme je dis, c'est ça, c'est pas comme, oui, vous êtes pardonné de tous vos prochains canons, ça ne fonctionne pas comme ça pour un tueur, c'est pas...
Je suis inquiète de savoir que vous savez comment ça fonctionne. Ouais.
Oups!
Ça ne sortira pas de cette salle. Ouais. Mais mon voisin sait comment ça fonctionne dans la tête d'un tueur. Anthony, on va mettre fin à cette table ronde, mais est-ce que vous pensez que votre héros, pour lui, ça finit bien? En dehors de la galère et avec ses pouvoirs.
So you think that finally for Bailey things finish well despite all the trouble he's gone through?
I don't want to spoil the end.
Okay. Je retire ma question. Est-ce que c'est une possibilité?
Is it a possibility?
Anyone who expects the last 5 minutes of Star Wars don't.
En fait, je suis un petit peu embêtée. J'ai du mal à répondre à cette question parce que je veux pas justement spoiler, révéler des choses. Et donc toute personne qui ne connaît pas les 5 dernières minutes de Star Wars peut pas dire.
Mm-hmm. I will say though that I hope it's dramatically satisfying.
La seule chose que je peux dire, c'est que j'espère que sur un plan dramatique, c'est satisfaisant.
Et c'est dramatiquement satisfaisant.
Dramatiquement satisfaisant, oui.
Et pour vous, Thomas?
Vous pouvez répéter la question. C'est ma blonde pendant 30 secondes.
Est-ce que...
Non, les blondes ne sont pas toutes
comme ça.
Est-ce qu'on peut espérer, ou est-ce que votre personnage va continuer à galérer, ou est-ce qu'on peut espérer que les choses s'arrangent pour lui?
Pour mes deux personnages principaux, ça va s'arranger, heureusement.
Et le reste du monde va en chier,
c'est ça? Non, pas du tout. Non, quand même pas. Ça va s'arranger parce que j'adore les happy end. Comme Jonathan, je suis un optimiste convaincu et ému.
Enfin, lui, il sait ce qui se passe dans la tête d'un tueur, donc.
Oui, c'est ça qui fait un peu peur. Mais on va prendre le côté plutôt positif de la chose. Ça va vraiment bien se terminer pour eux. Ils auront toujours des boulets à côté d'eux, et c'est justement ça qui va leur faire devenir meilleurs. C'est avec le nombre de boulets qu'on a enchaînés au pied que l'on peut trouver sa juste valeur. Tiens. Oui,
je m'attends. Alors, en épouvant, ça finit en galère aussi.
Souvent. Oui, souvent. Parce que
Maintenant, si on revient au cas de Stephen King, par exemple, je prends... oui, il y a certains de ses livres qui finissent bien, mais il y a quand même des traces de sang qui restent. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve les plus effrayants, disons, si on prend Stephen King encore, ben, Cimetière était très efficace. Oui, c'est sur Pet Sematary, Cimetière était très efficace. Ça finit très mal! Mais c'est la déconstruction de rêve américain, la famille, le chien, la piscine. L'homme perd tout ça, parce qu'il a pris des mauvaises décisions. Et à quelque part, ben, c'est probablement fini, mais et à quelque part, je crois que peu importe si ça finit bien ou mal, même si on pense que, moi, là, quand j'écris des histoires, je pense pas à quelle est la morale à cette histoire, mais il y en a quand même une à quelque part. T'sais, faites attention si vous prenez une mauvaise décision ou si tel truc, ou si vous êtes trop naïf pour penser que le monde est trop... Je crois que, ça, inconsciemment, tout de même, on passe des messages, parfois c'est conscient, mais disons, moi qui ne fais pas des romans à thèse, là, je crois qu'il y a quand même toujours des morales, alors que ça finisse bien ou mal, il y a quand même un avertissement. Et parfois, si on fait finir de façon trop forcée une histoire bien, c'est... le lecteur va le sentir. Non, ça fonctionne pas. Voilà.
Bon, donc on vous laisse découvrir les fins des histoires que nous avons réussi à ne pas spoiler. Et on espère que vous n'aurez pas tous ces super pouvoirs qui visiblement impliquent quand même un peu trop galère. Merci à vous.